7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, une question. Pourquoi les filles sont-elles peu attirées par les maths? D'ailleurs, le mot attirée, on pourrait y revenir. C'est peut-être déjà une erreur de ma part de dire ça. Mais en tout cas, c'est une réalité. Elles sont bonnes en maths quand elles choisissent la filière scientifique au bac. Et ensuite, où sont passées les filles? Dans les filières ingénierie, dans les filières informatiques, dans les filières maths, physique et d'autres filières très technologiques. Certes, elles sont très nombreuses en médecine et dans ce qu'on appelle les métiers du soin. Mais comment expliquer leur absence dans des secteurs où pourtant les créations d'emplois seront très fortes dans les années à venir, notamment avec l'intelligence artificielle? Bref, comment promouvoir les sciences et les techniques auprès des filles? On va en parler avec nos invités. Sylvaine Turc-Chiez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne, astrophysicienne. Vous avez été notamment directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et vous avez été présidente de l'association Femmes et Sciences jusqu'à l'année dernière.
Tout à fait, oui.
Vous nous direz ce que vous constatez depuis des années, ce pourquoi vous militez aussi et ce qui est peut-être en train de changer. Pascal Huguet également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive à l'université Clermont-Auvergne. Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Pays d'Auvergne. Et vos recherches concernent le poids des stéréotypes, notamment sur les performances des filles en mathématiques. Vous allez nous expliquer ça. On sera également en ligne avec le mathématicien Jonathan Mboyo-Essolé, qui est professeur de maths à la Northeastern University à Boston, aux États-Unis. Et lui, il est particulièrement investi en tant que Congolais d'origine dans des actions pour que les hommes fassent de la place aux femmes dans ces filières. Et il est l'un des lauréats du Next Einstein Forum en 2017 en Afrique. Et quant à vous, évidemment, les voisines, vous êtes particulièrement sollicitées aujourd'hui, mais tous les jours de la semaine. Appelez-nous pour nous parler de vos choix d'études. Est-ce que c'est difficile d'être une fille dans des filières masculines? Qu'est-ce que vous avez à prouver en maths? Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages. Et en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, une scientifique elle aussi, pédopsychiatre, mais aussi docteur en philosophie. La chronique parents-enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, que signifie aimer ses enfants? C'est une vaste question ô combien universelle. Alors, retour sur les filles et les maths avec des discussions un peu tendues sur notre fil Facebook. Mohamed à Moroni, aux Comores, nous dit « Il y a 10 ans, moi j'étais en terminale scientifique avec ma copine Faouzia. Il m'a fallu des mois pour la convaincre de s'engager dans cette terminale parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Aujourd'hui, elle est biochimiste en France et moi je suis ingénieure en génie civil. » Voilà, ça c'est quand même des sacrées bonnes nouvelles. Hein. Seydou, internaute qui ne précise pas son pays, il est en première C, il nous dit « Non, quand il était en première C, on était 25, 24 garçons, une seule fille. On a tous eu le bac C, on louait le courage de cette fille. On la voyait plus d'ailleurs comme une fille, mais comme un garçon. » Commentaire d'une auditrice, un peu amer, comme si les maths étaient propres aux hommes pour louer leur courage, n'importe quoi. Une autre voisine, Didine, à Douala, au Cameroun, « Quand je lis sur votre fil Facebook tous les commentaires de ces hommes qui se prennent pour Pythagore ou Thalès, j'ai envie de leur demander si eux-mêmes se sentent à l'aise avec les maths. » Sidi Ali, à Nouakchott, en Mauritanie, « Chez nous, les filles sont très attirées par les sciences. L'année dernière, les filles ont mieux réussi le bac scientifique que les garçons. Elles sont nombreuses à la fac de sciences. » Voilà, on a envie d'entendre maintenant votre voix, les voisines et les voisins. 33 1 84 22 71 71, vous nous suivez aussi sur Twitter en direct.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
L'association Femmes et Mathématiques, organisée il y a quelques jours, sa 90e journée, Filles et Maths, une équation lumineuse, au Mans, dans la Sarthe. Et notre reporter, Inès Edel Garcia, a suivi des jeunes filles qui sont élèves de seconde et de première scientifique au lycée Touchard.
Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes se détournent des études et des métiers des mathématiques et de l'informatique. Alors voilà quelques statistiques.
À ton avis, pourquoi il y a si peu de filles dans les filières scientifiques aujourd'hui ?
Les filles ont des meilleures notes que les garçons, en général, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être moins déterminés. C'est-à-dire qu'on va plus stresser et se dire « j'ai des bonnes notes, mais moins confiance en soi », ce qui fait qu'on va peut-être faire de moins bonnes études que les garçons, et du coup, ils vont peut-être plus réussir, alors que c'est ridicule, enfin, on a les mêmes capacités qu'eux.
Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de filles en SI, peut-être que ça ne les intéresse pas, peut-être que c'est aussi une sorte de stéréotype qu'elles ont envers les matières scientifiques, et peut-être qu'aussi, je sais qu'il y en a qui font leur choix de filière par rapport au choix que font leurs amis. Donc c'est peut-être pour ça aussi, ça les intéresse peut-être, mais étant donné qu'elles ont peur de se retrouver toutes seules dans la classe, elles préfèrent proposer autre chose.
Donc là, c'est l'heure du speed meeting. Les jeunes filles sont regroupées en petits groupes et elles ont l'occasion de rencontrer des femmes aux carrières scientifiques.
Donc pourquoi les femmes ingénieurs plutôt que la SVT ou...
Parce que c'est un côté technologique et on va dire assez manuel.
Ouais.
Qui c'est intéressant.
Bah oui, ouais, je suis d'accord.
Beaucoup de choses ensemble.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais si j'avais pu à votre âge, je pense que j'aurais fait ça aussi. Je trouve que mon lycée proposait pas de sciences de l'ingénieur. Donc j'avais fait la MPI en seconde. Je sais pas si ça existe encore, ça, je suis pas sûre.
Non.
Donc on avait c'est un espèce de cours de technologie avancée, un peu comme les sciences de l'ingénieur en fait, où on avait un défi MPI tous les ans, et donc il fallait qu'on construise quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a orientée vers l'acoustique.
C'est le moment de tourner à nouveau.
Est-ce que avant cette journée, tu avais des modèles de femmes scientifiques dans ton entourage ou à ta connaissance ?
Pas de femmes scientifiques. Enfin, j'avais des modèles de femmes en général, mais je connaissais pas de scientifiques. Enfin, après, il y avait Marie Curie, que je pense que tout le monde connaît, mais je connaissais pas de scientifiques particulières.
Nous revoilà dans l'amphithéâtre pour terminer cette journée filles et maths. On s'apprête à lancer l'activité Théâtre Forum avec une compagnie de jeunes comédiens. Et l'idée, c'est que les jeunes filles interviennent dans les scènes pour les rejouer à leur façon.
J'ai l'impression que tout le monde s'en fout et que de toutes les manières, c'est plus important de se soucier de l'avenir et des résultats de Théo que des miens.
Pas vraiment parce que tu travailles beaucoup plus que Théo. C'est pas parce qu'il se montre que tu dois t'écraser face à lui.
Bah ouais, mais c'est pas facile à faire parce que vous lui laissez la place aussi.
Tu devrais t'imposer. C'est pas parce que c'est le grand frère.
Petit.
Bah justement, c'est le petit frère, tu dois t'imposer.
Raison de plus.
C'est pas parce que c'est un garçon ou tu devrais plus t'imposer.
Ok, on va arrêter là.
Alors Jeanne, qu'est-ce que tu retiens de cette journée filles et maths ?
Par exemple, moi ça m'a ouvert sur l'idée de faire une prépa après le lycée. Donc voilà.
Une prépa scientifique ?
Oui.
T'as déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard ?
J'aimerais être ingénieure architecte.
Et aujourd'hui, cette journée filles et maths, elle était en non-mixité, il n'y avait pas de garçons avec vous. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus ?
Bah moi, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai pas trop de problèmes à m'exprimer, même sur des sujets quand il y a des garçons. Mais je pense que oui, ça a pu être utile pour certaines personnes qui se seraient pas exprimées s'il y avait eu des garçons ou quoi, qui peut-être se seraient moquées quand on aurait essayé de renier les stéréotypes. Mais en même temps, je me dis que ce serait bien quand même de sensibiliser aussi les garçons, parce que c'est la moitié de la société, donc c'est eux aussi qui prennent part à ces stéréotypes et qui les alimentent.
Sylvaine Turchiez, alors on vient d'entendre des journées de sensibilisation de l'association Filles et Mathématiques. Vous appartenez à l'association Femmes et Sciences, mais qui mène aussi des actions comme ça sur le terrain auprès des filles, des lycéennes. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les filles comprennent bien ce qui se passe ?
Alors, effectivement, dans notre association, on est très près des filles, puisqu'on rencontre des collégiennes, des collégiens, bien sûr, puisque c'est mix en général, des lycéens et même des universitaires aujourd'hui. Donc, effectivement, on rencontre à peu près 10 000 jeunes par an, ce qui est à la fois beaucoup et faible. Et donc, on produit aussi beaucoup de documentation pour essayer de comprendre la situation. Et on travaille aussi avec les ministères, les ministères de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on échange nos bonnes pratiques, je dirais. Et effectivement, le constat, c'est que les filles réussissent très bien scolairement. 6% de...
Dans toutes les matières, pas spécialement en maths.
Dans toutes les matières. Voilà, il y a juste un tout petit déficit des filles en maths en CE1. d'après les chemins, sur le chemin de l'égalité, ça c'est une publication du ministère de l'Éducation nationale.
On sait pourquoi ils ont un petit problème en CE1.
C'est très vite rattrapé, donc j'ai pas exactement les chiffres pour dire si la différence était très notable, mais après, et toujours, les filles sont bonnes, un peu meilleures que les garçons dans toutes les matières. Donc, y compris en terminale S, où elles ont effectivement, en mention bien et très bien, 6 points d'avance par rapport aux garçons. Donc, elles sont très bonnes scolairement. Et après, il y a un gap, puisque effectivement, on ne les retrouve pas dans les matières comme vous avez citées précédemment, c'est-à-dire l'ingénierie, les maths, le numérique.
Ouais, que ce soit les grandes écoles, que ce soit les universités d'ailleurs. Hein.
Voilà, oui, c'est le même constat. Hein. Elles ne vont pas plus facilement à l'université que dans les grandes écoles. Alors, on s'est interrogé avec le ministère de l'Enseignement national sur APB et sur le passage, justement.
APB, et, c'était le logiciel d'affectation qui permettait de
s'orienter après le bac.
Et qui maintenant s'appelle Parcoursup. C'est la deuxième année là, qu'on a de Parcoursup.
Voilà. Alors, on n'a pas encore les résultats pour Parcoursup, mais ce qui était vrai pour APB, c'est que effectivement, un garçon en terminale S à 55% allait choisir en premier choix la classe préparatoire, alors qu'une fille ne le choisissait que 35%. Ce qui fait que ça expliquait tout de suite la stagnation en fait des élèves en école d'ingénieur. Et donc Parcoursup essaye quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas non plus si simple, c'est-à-dire de ne pas faire de premier choix et de laisser effectivement plusieurs choix aux élèves en sachant qu'il y avait une certaine autocensure chez certaines et certains des jeunes qui n'étaient pas forcément plus mauvais que les autres. Donc on attend de voir effectivement si ça va ouvrir effectivement la voie vers les classes préparatoires et vers les métiers, je dirais, de physique, de maths et de numérique et d'ingénierie.
Pascal Huguet, alors j'ai dit en démarrage d'émission pourquoi les filles sont peu attirées par les maths. C'est un mot d'ailleurs qui peut dresser des cheveux sur la tête de certaines femmes scientifiques. Attirées, est-ce que c'est vraiment la question qu'il faut poser d'ailleurs ou pas? Pourquoi les filles sont peu attirées par les maths? Pourquoi elles choisissent peu les filières scientifiques? Est-ce qu'il y a une raison sociale, une raison d'éducation? Quelles sont ces raisons profondes?
Oui, la question est excellente et je rebondis sur les propos de ma collègue à l'instant qui évoque le gap. Ça, c'est un vrai sujet puisqu'on a dit tout à l'heure que les filles sont plutôt plus adaptées scolairement d'une façon générale et que dans les disciplines scientifiques et techniques, il n'y avait pas de problème. Il est vrai qu'ensuite, on a cette espèce d'abîme, de rupture, de discontinuité. Elles ne sont pas dans les filières techniques en suffisamment grand nombre. Bon, donc la question, bien sûr, se pose. Le premier élément de réponse, c'est que un grand nombre de sociétés à l'échelle de la planète associent plus facilement, culturellement, les maths, les sciences au masculin qu'au féminin. Voilà, donc il y a des raisons très profondes qui tiennent au rapport de force entre les hommes et les femmes, au fait que finalement ce qu'on valorise dans les sociétés, on va dire lourdement lestées par la technologie, etc., c'est la pensée logico-déductive, et bien entendu dans les rapports de force, les hommes se pensent supérieurs aux femmes dans ce domaine du raisonnement abstrait.
Ça s'est vérifié sur nos réseaux sociaux aussi, hein, on a ces stéréotypes qui sont revenus. Vous avez mené des expériences en collège, en école d'ingénieurs, pourquoi faire et pour découvrir quoi?
Alors, la stratégie a consisté à faire de ces questions-là, qui traitent de l'influence des stéréotypes, un objet de science. C'est-à-dire qu'on a les statistiques, très intéressantes, on a la photographie à un moment général, à un moment donné, au plan national par exemple, dans de multiples pays, au niveau européen, la Commission européenne fait un travail remarquable à ce niveau-là. Mais on peut aussi s'efforcer de faire de tout ça un objet de science, comment? C'est-à-dire avec la volonté de montrer ou d'essayer d'objectiver les mécanismes par lesquels les stéréotypes agissent.
Ouais.
Parce qu'on peut avoir, évidemment, des positions sur le sujet. Vous avez des gens qui ne croient absolument pas à ces histoires de stéréotypes, qui sont totalement réfractaires et qui ont tendance justement à naturaliser les inégalités.
Alors, justement, dites-nous vraiment en quelques mots, hein, parce qu'il faut qu'on donne la parole aussi, bien sûr, à nos auditrices, à nos auditeurs, mais à quelle conclusion parvenez-vous avec ces expériences ?
Alors, on arrive en laboratoire, en situation expérimentale. Alors, je dis laboratoire, on est souvent aussi sur, dans des conditions assez contrôlées, sur le terrain scolaire. On arrive à faire apparaître les différences garçons-filles sur des tests de maths, sur des tests qui relèvent des dimensions dont on parle aujourd'hui, et à les faire disparaître. C'est-à-dire que c'est presque comme des tours de magie. En fonction des contextes que l'on crée momentanément, le temps de l'expérience,
un exemple.
On peut amplifier les différences, au contraire les réduire, voire même les renverser. Alors je prends souvent cet exemple qui a consisté, tout ça est publié, hein, qui a consisté à de nombreuses reprises à présenter une figure géométrique sans signification particulière, c'est une figure assez complexe, que les enfants de classe de 6e et 5e doivent s'efforcer de mettre en mémoire pendant un temps très court. Ensuite, ils savent qu'on va leur demander de reproduire cette figure à main levée sous forme graphique. Dans le premier cas, on présente le test comme un test qui va nous aider à mieux évaluer leur capacité en géométrie.
Ouais.
Et dans l'autre cas, comme un test permettant de mieux évaluer leur capacité en dessin. Et bien sûr,
on
fait l'expérimentation, on attribue aléatoirement les sujets à l'une des deux conditions. OK. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on regarde quelles sont les performances. Qu'est-ce qu'on constate ? Lorsqu'on lorsqu'on appose l'étiquette géométrie au test, le test est strictement le même dans les deux conditions. Mais lorsqu'on évoque la géométrie, les filles se montrent inférieures aux garçons. Statistiquement, c'est très significatif.
Parce qu'elles se disent quoi ? Oula, c'est de la géométrie, ça va être difficile, je stresse, je serai bonne que mon voisin, il se passe quelque chose dans le cerveau.
On va y venir tout de suite, mais dans la condition dessin, que se passe-t-il ?
Oui, rapidement, Pascal Huguet, vraiment, parce qu'il faut qu'on avance.
Bien, la différence est renversée.
Et dans l'autre cas, donc, quand on leur dit c'est du dessin ?
La différence est renversée.
C'est-à-dire les filles sont meilleures que les garçons.
C'est-à-dire que les filles et les garçons ne pensent pas de la même façon, ça c'est clair. Et justement, c'est un peu pour ça que ça serait bien dommage que les filles n'aillent pas vers d'autres filières que celles qu'elles choisissent, je dirais, dans cette société horizontale où évidemment elles se projettent sur les activités les plus performantes et aussi les activités qui les intéressent le plus. C'est que la façon de penser, si elle est différente, ben elle est riche. Elle est riche pour l'avenir, elle est riche de capacité de faire des choses nouvelles et plus originales. Et c'est un peu ça qu'on leur explique. Malheureusement, quand on va dans les classes, on se rend compte que les métiers sont encore très loin des élèves.
Mais pour les garçons aussi.
Et pour les garçons comme pour les filles. Mais ce que l'on constate, je dirais, à partir de cette année, parce qu'on parle quand même de plus en plus de l'égalité filles-garçons, c'est que c'est vraiment un sujet dont les jeunes s'emparent. C'est-à-dire que les filles veulent en savoir de plus en plus, lire des livres pour comprendre ce qui se passe. Et les garçons sont là à nous dire. Moi, hier, j'étais à Poitiers, donc j'ai rencontré des jeunes de Poitiers, des universitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les filles vers les filières de maths et de numérique ? Parce que c'est vrai qu'il faut les convaincre.
Il y a d'une part le choix, mais il y a aussi la performance. C'est-à-dire qu'elles se disent, oui, mais si je choisis les maths, si je choisis une prépa école d'ingénieur, par exemple, ou une université maths physique, est-ce que je vais être à la hauteur ? Et c'est bien ça que vous nous disiez, Pascal Huguet, c'est-à-dire que le poids de ce que pense la société peut avoir une incidence sur sa capacité réelle à être bon, à produire de la performance.
Voilà. Il y a deux registres. Là, on en examine un seul. Mais ce que montrent les expériences, c'est pas simplement ce que se disent les filles dans telle ou telle condition. C'est un effet des stéréotypes sur la capacité d'attention. C'est-à-dire que on plombe la capacité d'attention des filles via ce que la société raconte. À partir du moment où le test est censé mesurer les mathématiques, est censé être lié à des choses typiquement masculines dans la tête de la plupart des gens, ça marche moins bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système cognitif moins efficient. Ça, il faut quand même le dire parce que on parle souvent d'autocensure par la suite, mais on oublie aussi quelque chose de très important, c'est que certes, il y a les filles qui montrent de la performance et qui, pour autant, ne vont pas dans les filières scientifiques et techniques, mais il y a toutes celles qui s'effondrent avant. du fait du stéréotype, parce qu'elles ne montrent pas les performances suffisantes, alors qu'elles le pourraient. Oui. Mais elles ne le font pas parce que le stéréotype crée de mauvaises conditions d'apprentissage.
Et parfois pour un examen, pour un contrôle raté, hein, avec une mauvaise note, où le prof ne va peut-être pas suffisamment encourager une fille, et il suffit qu'il y ait deux garçons devant elle, elle se dit, bah oui, mais bien sûr, je ne suis pas faite pour ça.
Mais aussi l'histoire des sciences. L'histoire des sciences est finalement assez peu connue en France, et donc, si les filles n'ont pas de représentation effectivement de scientifiques féminines. Absolument. Si les noms, et là l'Académie des sciences a fait un gros effort cette année puisqu'ils vont accepter d'avoir des noms qui vont devenir masculins et féminins, et évidemment les filles ne se projetaient pas. C'est pour ça que notre association a créé un livret sur 40 femmes scientifiques remarquables du 18e siècle à nos jours, pour présenter des femmes scientifiques aux jeunes filles et présenter des femmes scientifiques dans les livres scolaires, ce qui n'était pas le cas. Moi, je pose régulièrement la question, quel est le troisième prix Nobel féminin en sciences? Eh bien, très peu de personnes nous disent, Françoise Barrésine aussi, pour la découverte du sida. C'est quand même assez extraordinaire que personne ne connaisse effectivement les trois prix Nobel
C'est dans le petit quiz qui est donné dans une des brochures, qui est fait d'ailleurs, que vous proposez à des jeunes filles, à des jeunes garçons, pour qu'ils se rendent compte aussi de ce qu'on ne sait pas. Il y a question numéro 17, le cerveau des femmes est-il plus petit que celui des hommes? Alors, il faut répondre oui, mais c'est proportionnel à la taille du corps. C'est ça la réponse.
Oui, enfin disons
très simplifié.
La taille du cerveau intéressait beaucoup les scientifiques au 19e siècle. Aujourd'hui, on est passé au-delà et on sait qu'un cerveau est plastique et que le problème de la taille ne joue pas ce rôle, puisqu'on montre effectivement dans cette autre brochure, Les idées reçues, que Einstein avait un petit cerveau et bien d'autres aussi, et que ce n'était pas la taille qui jouait le rôle le plus important.
Mais ça mérite quand même d'être rappelé, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se posent des questions. Encore là-dessus. Vous nous appelez les voisines et les voisins aujourd'hui. Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à votre orientation? Pourquoi les filles ne choisissent pas les maths, la physique, la chimie? 33 1 84 22 71 71. On vous donne la parole.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et tout de suite, des messages qui ont été postés sur WhatsApp, un message d'Aziza, médecin à Bujumbura, au Burundi.
J'ai une fille, elle a 8 ans, bientôt 9 ans, et elle adore les mathématiques. Elle adore tout ce qui est calcul, formes géométriques. Je l'ai déjà vu voler même des livres de mathématiques chez sa grande sœur, qui, elle, exècre les mathématiques, et commencer à travailler dessus. Alors moi, je la soutiens. Par exemple, elle était très intéressée aussi par la chimie. Je l'ai laissé étudier les tableaux périodiques. Maintenant, elle le connaît de mémoire. Voilà.
Salut, 7 milliards de voisins et voisines. Je suis Ashta, je vous appelle depuis N'Djamena, à la capitale tchadienne. Quand j'étais en classe de 3e, je me suis fixé l'objectif d'être pilote d'avion. Et surtout aussi que j'ai eu la chance d'être admise en classe S. Donc, j'ai toutes les possibilités de pouvoir poursuivre mon rêve. Mais malheureusement, j'ai fait l'erreur d'écouter cette tonne de commentaires négatifs que quoi, c'est pas un métier de femme, tu vas faire quoi au milieu des hommes, être pilote, c'est pas facile. Donc ça m'a carrément coupé l'envie de continuer, surtout ici en Afrique, c'est compliqué, surtout quand vous êtes une fille. Donc j'ai carrément abandonné l'idée. Aujourd'hui, j'ai pris une toute autre voie. C'est aussi la science, bien sûr, j'ai fait la santé. Je suis étudiante en 3e année à l'université. S'il y a une chose que je regrette beaucoup aujourd'hui, c'est d'avoir écouté ces préjugés. Donc je vais profiter de ça pour passer un petit message à toutes les filles qui nous écoutent. Si vous avez un rêve et si vous avez une possibilité de pouvoir réaliser ce rêve, ne les laissez pas passer. Faites-les, parce que c'est maintenant ou jamais.
C'est maintenant ou jamais, si vous avez un rêve, les voisines.
Oui, moi je voudrais rebondir sur cette remarque parce qu'elle est vraiment générale et on la rencontre aussi en France. Malheureusement, il y a beaucoup de conseillers d'éducation qui découragent les filles d'aller vers des filières qui sont principalement masculines. Ouais, et en particulier disent, le numérique, en disant « mais c'est pas pour toi ». Et encore hier, les filles me le racontaient. Elles font des tests et on leur dit « mais attends, non, tu t'épanouiras mieux, regarde le test, tu t'épanouiras mieux sur un tout autre métier ».
T'es bonne en maths, va donc en médecine. médecine, du coup. Voilà. Hein, et voilà. Les filles se retrouvent en médecine.
Il va y avoir une réforme de la médecine qui est quand même assez stupéfiante. Effectivement, on en parle beaucoup en ce moment, qui est de choisir des médecins qui ne viennent pas forcément du milieu vraiment « j'ai décidé de faire médecine », mais qui pourraient venir d'autres milieux. Et ça sera 40% des futurs médecins.
Ouais, ça va évoluer. Ce qui veut dire que les filles pourront partir en fac de maths, chimie, oui, physique, par exemple, et ensuite rebifurquer vers la médecine si vraiment
aller vers la médecine,
elles en ont envie.
Soit pour devenir médecin, soit pour devenir accompagnateur des développements médicaux.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 61 71. Maria est à Kinshasa. Vous êtes étudiante en médecine. Maria, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu cette voisine, toute jeune voisine, Ashta Anjamena, qui a abandonné le rêve de devenir pilote d'avion et qui a fait médecine. Est-ce que vous, vous avez fait médecine parce que vous étiez tout simplement très bonne en maths et que vous auriez peut-être eu envie de faire autre chose en sciences dures ?
Non, non. La médecine, pour moi, c'était une passion. Alors, j'ai voulu passer par les maths pour arriver à faire la médecine. Parce que être médecin, c'est aussi connaître les maths, parce que ça nous accompagne tout au long de la vie, moi, je pense.
Oui. Alors, évidemment, en médecine, hein, vous êtes nombreuses, les filles, à Kinshasa.
Oui.
Ouais. On a contacté une de vos amies parce que vous êtes dans une petite bande de copines là où beaucoup de vos amies ont choisi des carrières scientifiques, tout comme vous. Donc, Rebecca est en ligne avec nous également à Kinshasa. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Vous êtes à Polytechnique en génie civil.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous choisissiez cette filière-là à Kinshasa ?
Voilà, depuis le lycée, parce que j'ai fait le lycée Kabambaré. J'ai fait un scientifique. Alors mon professeur voyait comment j'évoluais, alors il m'a parlé de la polytechnique. Ce qui m'a poussé à chercher un peu plus, à en savoir un peu plus. Et quand j'ai su que c'était les maths également, alors je me suis inscrite.
Qu'est-ce que vous voulez faire exactement plus tard à la sortie de polytechnique ?
J'aimerais continuer à devenir professeur, toujours être ingénieur civil, constructeur.
Alors attendez, vous voulez être donc vous voulez enseigner ou vous voulez devenir ingénieur en construction hydraulique, hein, parce que vous avez dit ça au standard.
Oui, je vais devenir ingénieur en construction hydraulique. En même temps, après ma formation, devenir professeur.
Vous voulez faire les deux
pour encourager les filles.
C'est ça. Vous allez encourager les petites sœurs, c'est ça?
Exactement. Ouais. Oui, parce que ici, on n'a pas de professeurs femmes.
Ah ouais. Il n'y a que des hommes. Vous êtes combien de filles, là ? Vous avez une idée dans votre classe ?
Chez moi, on est à peu près 10.
10 filles sur combien ?
10, oui. Sur 59.
Sur 59, d'accord. Il y a eu, pendant quelques années, Polytechnique était gratuite, enfin les frais d'inscription étaient offerts aux filles. C'est toujours le cas ou pas ?
Non, ce n'est plus le cas depuis 2016.
Est-ce que ça avait eu un effet sur... est-ce que ça avait poussé les filles, les familles surtout, à dire, bah tiens, va à Polytechnique, il n'y a pas de frais d'inscription ?
Oui, c'était une sorte de motivation. Je dirais une discrimination positive qui a permis d'augmenter le nombre des filles à la faculté. Ah. Et on savait qu'il y avait une bourse et que l'inscription était gratuite, on pouvait venir. Et voilà, mais le projet a pris fin. Maintenant, on paye le tout.
D'accord. Merci beaucoup Rebecca de nous avoir appelé. Merci à vous aussi Maria en médecine. Merci les voisines. Rufina, une autre voisine, est une ancienne professeure de sciences de la vie et de la terre qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Rufina, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour les voisins, bonjour les voisines.
On vous écoute. Alors vous, qu'est-ce que vous avez observé sur vos élèves ?
Oui, à partir d'une étude en DEA de sciences de l'éducation, nous avons observé que les filles pouvaient exceller en sciences, en STEM, sciences, technologie et mathématiques, ingénierie. Elles pouvaient le faire, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de stéréotypes sexo-négatifs. Et à partir de ce constat, nous avons vu aussi qu'il fallait des stratégies pour les pousser à choisir des sciences dures. C'est comme ça qu'on a créé des réseaux de femmes scientifiques. Une association au Sénégal, une autre dans un autre pays d'Afrique, et on a créé le réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs. Et nous sommes affiliés à INWEST, International Network Women and Engineers and Scientists, qui est un réseau beaucoup plus global.
Ouais, ça vous permet de dialoguer avec d'autres associations dans le monde. Vous avez un ministre, vous aviez un ministre de l'enseignement supérieur, Marie Tiounianne, qui est mathématicien hein, aussi, qui a œuvré dans ce sens-là. Nous sommes en ligne avec un mathématicien aux États-Unis, Jonathan Boyau-Essolé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques à la Northeastern University de Boston aux États-Unis. Vous avez aussi été lauréat du Next Einstein Forum en 2017 en Afrique. Vous, en tant qu'universitaire de mathématiques, vous avez donné des cours à peu près sur tous les continents. Qu'est-ce que vous observez maintenant ?
Alors, ce que j'observe, c'est que au départ, quand on est étudiant en mathématiques, moi j'ai fait mes études en Belgique, il y a même des fois plus de femmes que d'hommes quand on est au niveau des licences et aussi elles sont bien représentées au niveau des masters, mais plus on avance, plus les chiffres tombent quand on regarde le nombre de personnes qui font un PhD, donc un doctorat, ça tombe. Et ensuite, le nombre de personnes qui ont des postes de responsabilité dans les départements ou au niveau de distribution de bourses de recherche ou de fonds de recherche, les chiffres tombent. Donc, en fait, les femmes ne sont pas là quand il faut prendre des décisions, quand il faut choisir aussi qui on met en avant. Donc en tant que communauté, on doit vraiment se poser des questions sur pourquoi.
Et ces chiffres qui tombent, ce sont des choix personnels de vie ou ce sont aussi des problèmes de performance ?
Je ne pense pas que ce soit des problèmes de performance. Je pense plutôt que la communauté scientifique n'est pas toujours la plus accueillante pour les femmes. Et on n'adresse aussi pas des problèmes, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on est scientifique et qu'on a envie d'avoir des enfants et qu'on est une femme. On est en fait traité exactement comme la compétition masculine. Je peux donner beaucoup d'exemples. Vous prenez par exemple la plus grande récompense en mathématiques, c'est la médaille Field. Et il y a une restriction d'âge de 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour une jeune femme qui fait de la recherche en mathématiques? On a une lauréate de la médaille Field au total. On peut se demander, est-ce que c'est fair play de mettre cette barrière d'âge en sachant que pour avoir un enfant, il y a quand même un coût du point de vue temps, du point de vue énergie.
Et il y a quelques jours, la mathématicienne américaine Karen Uhlenbeck est devenue la première femme lauréate du prix Abel de mathématiques. Elle a 76 ans. Il n'y avait pas de restriction d'âge.
Voilà.
Les spécialistes des équations aux dérivées partielles.
Et je voudrais aussi dire Claire Voisin, qui est directeur de recherche CNRS à Jussieu et qui est chaire, elle a une chaire au Collège de France, a reçu le prix UNESCO L'Oréal pour des femmes en sciences. Et c'était la première fois aussi que le prix s'ouvre à des mathématiciennes.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Si on parle des solutions avec vous tous les trois, Jonathan Boyau-Essolé et Sylvaine Turkchiez et Pascal Huguet, quelles sont les décisions capitales aujourd'hui à prendre pour permettre aux filles de ne pas se restreindre, de faire profiter la science aussi de leur talent? Sylvaine Turkchiez.
Alors moi je dirais que on va voir sur Parcoursup si effectivement il y a plus de femmes qui rentrent dans les sciences dures. Mais il y a aussi, je dirais, le poids des familles, effectivement, et on essaye de plus en plus de parler aux parents, aux conseillers d'orientation, puisqu'on a quand même pointé, effectivement, le rôle de ces différents acteurs, qui sont très importants pour les études. Et ensuite, professionnellement, le CNRS, je pense, fait un très gros effort pour montrer, effectivement, que le rôle des enfants, qui est quand même effectivement quelque chose qui explique la différence de carrière des femmes et des hommes, le rôle des parents, c'est le rôle des pères et des mères, et que avoir une vie professionnelle réussie, c'est réussir à concilier la vie privée et la vie
professionnelle. Et ça, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Ça bouge quand même beaucoup dans les nouvelles générations de ce point de vue.
Parce qu'en même temps, ce qui est intéressant, c'est quand les conseillers d'orientation poussent massivement les filles bonnes en maths à aller vers médecine, ce sont des études horriblement longues, horriblement difficiles, stressantes. Et en réalité, si réellement le poids du projet personnel et familial comptait pour les filles, c'est pas forcément une bonne option de choisir médecine. Pas du tout par rapport à une école d'ingénieur.
C'est vrai, mais il n'empêche qu'elles sont attirées par la médecine, donc on ne peut pas les empêcher. Oui. Mais on a aussi constaté que malheureusement, 80% ne réussissaient pas le concours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tentatives pour effectivement montrer aux filles qu'en faisant du numérique, elles peuvent s'approcher plus de la médecine que peut-être en faisant tout à fait autre chose, l'économie ou quoi que ce soit. Donc, il y a aussi à faire connaître les métiers. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le rôle des associations, parce que les professeurs sont pas là pour ça, et donc on aimerait que les ministères partagent plus finalement les produits des associations pour pouvoir toucher un public plus large, parce que nous, même quand notre association est nationale, les autres associations, femmes et mathématiques et femmes ingénieurs, touchent aussi un certain public, mais on ne touche pas 500 000 personnes. Et donc, pour toucher 500 ou 800 000 personnes, il faut que les ministères s'emparent aussi de nos actions.
Et c'est une réalité dans tous les pays du monde, à l'heure actuelle.
Surtout dans les pays occidentaux, parce que, par contre, dans la concurrence internationale, les pays asiatiques, eux, vont très très fortement se développer, à la fois dans le numérique et les mathématiques, et donc pour rester, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle, pour rester politiquement en phase de croissance et de compétition, il faut que filles et garçons s'y mettent dans les pays occidentaux.
Pascal Huguet.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que la recherche livre des pistes, ou en tout cas valide certaines pistes pour l'action. Par exemple, l'efficacité de l'exposition des filles à des modèles de réussite féminins. Ça, c'est capital, et il faut pas s'y prendre en terminale. Il faut avoir une stratégie systématique très tôt au cours du cursus scolaire.
À quoi vous pensez ?
Expérimentalement, on a la preuve que cette exposition à des modèles réussite, le fait de connaître des femmes qui ont réussi en maths, en sciences d'une façon générale, on a la preuve au niveau scientifique que ça marche. Ça produit des résultats. Ça produit des résultats le temps d'une étude expérimentale d'un mois.
Ça veut dire qu'avoir un titan si cadré sur une femme scientifique dans un livre de maths en classe de 3e, ça a un impact sur la réussite des filles en maths.
Voilà, il faut préparer le terrain très tôt. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas faire de grands discours avec les enfants. On ne va pas s'adresser à des enfants de primaire comme on s'adresse à des élèves de terminale. Avec les enfants du primaire, on peut gentiment, mais sûrement, travailler sur cette association femmes et sciences, femmes et maths, au sens où on trouverait des modèles de réussite féminins dans les manuels, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. La plupart du temps, ce sont des figures masculines. Donc, en gros, si on voulait fabriquer une société fondamentalement inégale, on ferait les manuels scolaires qu'on a aujourd'hui. Si on voulait expérimentalement le faire.
C'est pour ça qu'on essaye de les encourager à bien connaître eux-mêmes les femmes scientifiques pour pouvoir en parler, au moins montrer quelques images. Après, il y a la main à la pâte qui effectivement a aussi, il faut la citer, cette association très importante.
Georges Charpak.
Voilà, et qui travaille beaucoup avec les ministères aussi et qui s'adresse aux jeunes enfants, mais aussi aux collèges. Et donc, il y a des collèges pilotes et moi, je vais être marraine d'un de ces collèges où effectivement, on va voir les enfants et où il y a un travail pratique qui se fait avec les professeurs de physique, chimie et mathématiques. Et ça, c'est très important, en particulier dans des milieux où, effectivement, il n'y a pas du tout l'image d'un père ou d'une mère qui serait d'un milieu scientifique.
Jonathan Boyo et Solé, vous qui enseignez aux États-Unis dans une prestigieuse université, est-ce que les Américains ont une longueur d'avance là-dessus pour aider les filles à avoir confiance en elles et en leur performance et en leur carrière dans les choix de carrière maths, physique, chimie, informatique ?
Donc ici, la problématique est prise vraiment très au sérieux et comme d'habitude aux États-Unis, on n'essaye pas de se voiler la face par rapport à cette réalité et on insiste sur les modèles, on essaye d'organiser des visites dans les écoles pour que les enfants déjà très jeunes puissent voir des scientifiques qui leur ressemblent, que ce soit des scientifiques noirs, femmes ou avec... leur définition de genre qui n'est pas celui qui est traditionnellement reconnu. Les modèles, c'est vraiment essentiel. Donc, je travaille aussi avec une organisation qui s'appelle Malaika. Et je suis toujours impressionné de voir la réaction de nos élèves quand, en fait, ils rencontrent une femme scientifique. Donc, récemment, Raissa Malou, qui est ambassadrice du Next Einstein Forum a visité l'école. Et c'est impressionnant de voir les jeunes filles quand elles sont face à une femme physicienne, docteur ou mathématicien. Donc,
il y a vraiment un déclic qui se produit. Hein. D'ailleurs, on l'entendait dans les témoignages des auditrices. Exactement. Sur le continent africain. Ouais.
Et puis, il y a aussi le fait de savoir qu'en fait, on a une carrière possible. Donc, quand on parle, par exemple, aux étudiants, leur expliquer qu'est-ce qui se passe quand vous avez de bonnes notes, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, essayer de leur montrer aussi qu'il y a un network pour les soutenir, identifier aussi des gens qui peuvent, qui sont connus et qui clairement, publiquement, signifient qu'ils sont là pour supporter l'effort de n'importe quelle talentueuse jeune mathématicienne qui voudrait réussir. Et on est très fiers aussi que la première femme film médaliste, en fait, vient des États-Unis. Elle a fait son doctorat à Harvard. Elle était professeure à Stanford et elle vient en fait d'Iran. Et je voudrais aussi ajouter que quand on regarde les chiffres sur le nombre de femmes scientifiques dans le monde, il y a beaucoup de stéréotypes qui est surprenant. Donc, par exemple, la France, avec 27%, est en dessous de la moyenne mondiale. Et un pays comme la Tunisie a déjà un pourcentage qui est au-dessus de 50% de femmes chercheurs en Tunisie.
Ouais. Effectivement. Dans l'Afrique du Nord, c'est une promotion, c'est sortir de sa condition de femme que d'aller étudier les sciences, et effectivement, elles envahissent largement les amphithéâtres.
Et paradoxalement, on pourrait se dire que le poids des stéréotypes serait plus élevé, plus développé parfois dans les pays occidentaux. Vous n'êtes pas sans savoir, Sylvaine Turkchiez, qu'il y a aussi quand même beaucoup de grincements de dents ces derniers temps, des hommes qui paniquent un peu dans la communauté scientifique, qui se disent « il va falloir laisser de la place ». Il y a eu une polémique à l'université de Pise avec un physicien qui a dit qu'il y avait à l'heure actuelle de la discrimination positive pour pousser des femmes scientifiques qui n'avaient pas suffisamment de publications. On entend beaucoup ça, notamment aussi en médecine, avec des femmes que l'on essaye de nommer professeurs qui n'ont pas suffisamment de publications. Est-ce que vous êtes favorable à la discrimination positive ?
Alors, je crois que c'est un problème compliqué et je ne peux pas répondre en 2 minutes en disant j'y suis favorable ou non.
20 secondes même.
Mais effectivement, voilà, il va falloir faire quelque chose. On voit que ça réagit fort. On voit que les jeunes filles n'aiment pas les quotas. Malgré tout, il faut les convaincre de prendre leur place. Mais il faut aussi faire attention aux hommes, parce que on constate que les hommes réussissent moins bien dans les enseignements supérieurs. Donc, c'est tout un équilibre. Donc, il faut être prudent, mais il faut laisser les filles prendre leur place.
Et surtout, il va falloir suivre un peu la suite des événements, comment ça va se passer, si effectivement les filles vont parvenir à prendre une place, et pas forcément au détriment des hommes, si possible. Merci à vous, Sylvaine Turkchiez, Association Femmes et Sciences. Il y a le lien internet sur notre page, ça peut donner des idées aux autres. Merci beaucoup, Pascal Huguet. Merci à vous, Jonathan Boyot et Solé. Dans quelques instants, ce sera la chronique d'une scientifique également, docteur en philosophie. La pédopsychiatre Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Chronique à retrouver en podcast et sur l'antenne de RFI dans l'émission 7 milliards de voisins. Marie-Rose Moreau, aujourd'hui, il est question d'aimer ses enfants. Quel parent ne s'est jamais demandé est-ce que j'aime suffisamment mes enfants et est-ce que je les aime comme il faut ?
Et oui, est-ce qu'il m'aime aussi ? Mais effectivement, c'est une question, je pense, essentielle du monde contemporain. Comment se construit l'amour pour nos enfants ? C'est d'ailleurs souvent une énigme et parfois une découverte. Et on sait aussi qu'on va l'exprimer et on va le vivre de façon très différente dans le monde. Même si souvent on considère qu'il y a une sorte d'évidence, on pense souvent que nous, on sait, c'est nous qui savons le mieux aimer ses enfants, mieux que les des autres.
Il y aurait donc une seule façon de bien aimer ses enfants ?
Oh non, non, non. Il y en a bien sûr, comme toutes les grandes choses, ça prend des formes multiples. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait comme ça, « Aimer ses enfants ici et ailleurs ». Et ça m'a été inspirée par une dame indienne que j'ai rencontrée dans un aéroport américain. Et elle m'a raconté qu'elle était venue visiter sa fille, mariée avec un Américain. Sa fille venait d'accoucher de son troisième enfant et elle a ajouté sur le ton de l'évidence, « Vous savez, les Américains, ils ne savent pas aimer les enfants. C'est pour cela que je viens. Ça aide ma fille de ne pas être seule. » Donc effectivement, il y a plein de manières et on doute toujours de celles des autres. Surtout de bien les aimer. Et je pense que ce n'est pas un livre qu'il faut écrire sur ce sujet, mais toute une vie ne suffirait pas. Je me souviens d'une autre dame qui m'a beaucoup appris là-dessus, qui était une femme afghane rencontrée dans un camp de réfugiés, Sarah, qui me disait que son bébé de 6 mois avait mal à la tête. Comme je lui demandais, mais comment savez-vous que le bébé a mal à la tête ?
Oui, elle... À 6 mois.
À 6 mois, ben elle en était pourtant sûre. Elle me répondit, bon, enfin vous êtes une experte, et elle me répondit sur le ton de l'évidence que comme elle aimait son bébé, elle savait ce qui lui arrivait. C'était sa manière à elle de définir l'amour maternel, une empathie tellement profonde, construite par l'observation et par le souci de ce bébé. Qui ne parlait pas encore.
Je comprends mon enfant, donc forcément je l'aime. Mais dans l'autre sens, on peut avoir peur, et notamment beaucoup en Occident, de ne pas être aimé par ses enfants.
Et oui, oui, oui. En Occident, je crois qu'aujourd'hui, quand les enfants grandissent en particulier, quand ils deviennent adolescents, et qu'il faut leur mettre des limites, leur dire non, leur dire des choses qu'ils ne veulent pas entendre, je vois certains parents qui ont peur d'être autoritaires, de dire ce fameux non. Ils ont peur, surtout, que cela entraîne le fait que leurs enfants ne les aiment plus. Et d'une certaine façon, cela fragilise le travail des parents. Les parents deviennent dépendants de cet amour que leurs enfants leur portent ou qu'ils voudraient que leurs enfants leur portent. Et ça, je crois que c'est une caractéristique de notre monde occidental, d'avoir au fond, de douter sur cet amour des enfants. Et peut-être faut-il se rappeler que le lien parent-enfant, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est un lien fort et spécifique, c'est un lien d'attachement. Et en tous les cas, ce lien, il résiste dans tous les cas aux non et aux limites.
D'accord, donc finalement, il ne faut plus se poser de questions. Est-ce que j'aime suffisamment mes enfants ? Est-ce que mes enfants m'aiment suffisamment ? Évacuer cette question.
Exactement, exactement, comme le disait la dame afghane.
Merci Marie-Rose Moreau, on retrouve vos chroniques sur les plateformes de téléchargement en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et Marie-Rose Moreau, je précise que vous avez publié « Aimer ses enfants ici et ailleurs » aux éditions Odile Jacob.
Et voilà.
Alors, on dit quoi ?
Diara Ndiaye vient de nous rejoindre dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Diara, vous présentez Alors on dit quoi chaque samedi à 11h10 temps universel. Dans votre émission Demain samedi, vous rencontrez deux jeunes artistes.
Exactement Emmanuel, l'art est notre thématique de ce samedi. La légitimité de l'art contemporain africain, longtemps considéré comme un art mineur, n'est plus approuvée. Direction la Mauritanie à la rencontre d'Ami Sow et Khadidiatou Mint Ismail. Maëlle, deux plasticiennes, qui apportent une touche féminine à cet univers plutôt masculin.
Moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de beaux-arts. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'école de beaux-arts. Ça m'a poussée à dire qu'un jour, quand j'aurai un peu de moyens, je vais me construire quelque chose qui ressemble aux artistes. Quelque chose artistique. Le concept d'Art Galé, c'est un espace d'échange et de rencontre, et surtout de créativité. À l'école, les jeunes n'ont pas la chance de faire les arts plastiques. Ce n'est pas inscrit dans le programme scolaire. C'est notre lutte pour que les arts plastiques soient inscrits dans le système scolaire.
Ah ben elles savent où elles vont, hein.
Exactement, et ces filles tentent de s'imposer dans leur pays, et c'est aussi, nous le verrons, une façon créative de lancer des messages et d'éveiller les consciences sur diverses thématiques, Emmanuel.
Plasticienne en Mauritanie, pas banal, à découvrir absolument demain en intégralité dans Alors on dit quoi à 11h10, temps universel. Merci Diara.
Merci Emmanuel, et bon week-end aux voisins et voisines.
Et quant à moi, je vous retrouve lundi, 7 milliards de voisins, gros plan sur les jeunes et les femmes en Algérie, pourquoi et comment ils ont investi la rue. Je vous dis à lundi et merci à toute l'équipe, Delphine de Dianous, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac. Et bien sûr, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur l'appli RFI Pure Radio pour réécouter toutes nos émissions. Très bonne fin de semaine sur RFI. À lundi.